Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique ont foulé le sol congolais hier dans l'après-midi. Le couple royal était accueilli au pied de l'avion par le président de la République et la première dame. Plusieurs autres personnalités politiques et religieuses étaient aussi rangées pour accueillir le roi et la reine. Il s'observe depuis un certain temps une baisse du taux de criminalité urbaine à Bunia, chef-lieu de la province. Pour bon nombre d'observateurs, c'est l'une des retombées de l'état de siège, mais aussi parce que la MONUSCO a installé plus de 300 panneaux d'éclairage public sur certaines artères de la ville. Vote de la loi électorale à l'Assemblée nationale, le G13 auteur de cette proposition de loi n'est pas d'accord avec le travail réalisé par la commission politique, administrative et juridique. Pour en parler, nous recevons le professeur Jacques Njoli, l'un des co-auteurs de cette loi. Voilà tout pour les titres. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal Parlé. Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique sont arrivés dans l'après-midi d'hier à Kinshasa, première étape du séjour royal de 6 jours en RDC avant de se rendre à Lubumbashi et à Bukavu, à la tête d'une forte délégation de membres du gouvernement belge et de nombreux journalistes. Le souverain a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le président de la République, accompagné de la première dame. Plusieurs autres personnalités politiques et religieuses, dont les deux présidents du Parlement, étaient aussi rangés pour accueillir le roi et la reine. Reportage Jeff Ngoï Mulonda.
14h50, l'aéronef transportant le couple royal s'est posé sur le tarmac de l'aéroport. Le roi Philippe et la reine Mathilde sont descendus de l'avion. Ils sont flairés par deux jeunes filles au pied de la passerelle où se trouvaient Félix Tshisekedi et Denise Nyakeru qui les ont salués et leur ont souhaité la bienvenue en RDC. Les deux hautes personnalités vont monter sur une estrade puis la fanfare entonne les hymnes nationaux de deux pays. Après, c'est le moment pour le roi de traverser la haie d'honneur militaire rythmée. Par la suite, le couple royal va serrer la main à quelques personnalités venues l'accueillir. Quelques minutes de repos au salon présidentiel ont sitôt suffi pour que le cortège se branla vite dans une petite foule de militants de certains partis politiques devant l'aéroport, drapelés à la main et acclamant le souverain en guise de bienvenue. L'agenda du couple royal prévoit de nombreuses cérémonies ce mercredi, notamment la décoration du caporal Albert Kounoukou au mémorial des anciens combattants, puis le discours du roi devant le Parlement.
La visite du roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique en RDC suscite beaucoup de réactions en termes d'attente de la part de certaines personnalités du monde politique et religieux. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, et Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, ont exprimé ces attentes juste après l'arrivée du couple royal hier mardi à l'aéroport international de Njili. Il s'agit notamment du décollage sur le plan de développement qui attend encore la RDC. Encore une fois, un reportage de Jeff Ngoï Mulonda.
Le roi des Belges apporte aux Congolais deux messages importants, selon Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, qui parle notamment d'une page d'histoire tournée.
Il nous envoie deux messages. Le premier message, c'est enterrer une page d'histoire douloureuse entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Deuxièmement, ouvrir une nouvelle page de coopération dynamique et privilégiée. On est en train de se rendre des comptes. Chacun payera sa facture. Et nous, on nous restituera le corps de notre premier ministre. Et une bonne chose, la Belgique a fait un bon pas en reconnaissant cela et en nous restituant le reste du corps du premier ministre.
Et le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Cholet, parle du pardon.
La première des choses, c'est le pardon. Le pardon par rapport à ce qui n'a pas été, mais aussi l'engagement à nous accompagner, à aller de l'avant. Jusque-là, bien qu'indépendant, il faut reconnaître que nous avons de la peine à décoller. Je crois qu'ensemble avec eux, on peut faire beaucoup de choses pour l'intérêt de ce pays.
Le roi Philippe s'adressera ainsi au peuple à travers le Parlement. Et d'après Christophe Mbosso, son discours se fera devant l'esplanade du Palais du Peuple.
Comment les Congolais perçoivent cette visite du couple royal de la Belgique en RDC? C'est un sujet de joie pour certains, que nous avons rencontrés. Cela peut amener de nouveaux investisseurs et créer des emplois futurs en RDC. Pour d'autres, cette visite qui sera suivie de celle du pape François le mois prochain montre que le pays s'est rouvert au monde et qu'il est de nouveau fréquentable. Suivez ceux que notre équipe a rencontrés à Kinshasa. Leurs propos sont recueillis par Babel Mpongo. Massimango.
C'est toujours bien d'établir de bonnes relations avec sa colonie. Voir que le roi des Belges vient au Congo, c'est une bonne chose pour les investissements, parce qu'il ne vient pas seul, il vient sûrement avec des hommes d'affaires, son gouvernement. Donc c'est une bonne opportunité pour le Congo.
Le pays fait face à plusieurs défis, notamment à l'est du pays avec la situation sécuritaire. Nous avons même passé commun, la Belgique connaît aussi beaucoup d'enjeux, notamment ce qui se passe à l'est. Donc si la visite du roi peut élever la discussion pour qu'on puisse trouver quelques brins de solutions aux problèmes sécuritaires à l'est, ça sera quand même une bonne chose.
Nous voyons que le pays peut être visité dans un passé très récent. Il y avait un problème dans ce sens-là, mais si nous voyons le pape planifier son arrivée au mois de juillet et la visite du roi des Belges, nous sommes très contents. Ça augure de bonnes nouvelles pour le Congo. La visibilité est là. Ils ont bien même les pays dans les deux zones, il y a la guerre. Nous sommes aussi travaillés pour que la paix revienne.
Nos deux pays ont un passé commun. On ne peut pas se séparer. La Belgique a fait 80 ans de colonisation dans ce pays. Elle a fait des très bonnes choses, mais aussi des très mauvaises choses. L'arrivée du roi est une opportunité pour corriger cela. Nous avons un pays qui est en train de souffrir actuellement.
Poursuivons notre journal à Ituri où il s'observe depuis un certain temps une baisse de taux de criminalité urbaine à Bunia, chef-lieu de la province. Pour bon nombre d'observateurs, c'est l'une des retombées de l'état de siège. Pour d'autres, c'est aussi grâce à l'apport du Fonds social de la République et de la MONUSCO qui ont réfectionné plusieurs artères de la ville. La MONUSCO qui a par ailleurs installé plus de 300 panneaux d'éclairage public sur certaines artères de la ville qui facilitent l'organisation des patrouilles mixtes avec le FARDC et la PNC. Les détails avec vous Ezekiel Mouzalia.
La MONUSCO a installé des lampadaires sur plusieurs artères de la ville de Bunia, du rond-point Tembe à la prison centrale, ainsi que les longs du tronçon qui va du rond-point Picnique jusqu'à l'aéroport national des Murongo en passant par le centre Kapa, un axe où les petits commerçants exerçaient à peine jusqu'à 17h, faute d'éclairage public. Des ouvriers du Fonds social de la République s'activent chaque jour pour boucher les nids des poules qui jonchaient autrefois la chaussée. Témoignage.
Il faut certainement aussi saluer ce que fait la MONUSCO. Vous voyez que la ville était dans les noirs, il y a l'éclairage public et consort.
Auparavant, pour trouver les supermarchés, c'était tout un sérieux problème.
Autre impact de ces renouveaux de la ville de Bunia, des supermarchés qui naissent presque chaque mois et contribuent au développement de la province. Un habitant exprime sa satisfaction.
Que ça montre le développement d'abord du milieu. Vous voyez, il y a les gens qui achètent au niveau des supermarchés et ça, les gens qui sont démunis, ils peuvent se trouver au niveau de ceux qui sont en rue parce que c'est étalé à des milliers qui sont confort.
Avec les actes d'engagement des cessations des hostilités que viennent de signer les groupes armés FPIC et Codeco. Beaucoup parient ici que ce mouvement va s'amplifier. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Pendant ce temps en Nord Kivu, les chefs des forces de défense des États partenaires de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, se conviennent des modalités de la mise en place d'une force régionale. C'est à l'issue d'une rencontre de deux jours qui s'est clôturée ce mardi à Goma. Cette force, après approbation des chefs d'État des sept pays membres, devrait contribuer à la restauration de la paix et de la sécurité dans la région. Bernadette Nyangi.
Cette rencontre de deux jours a été présidée par le chef des forces de défense du Kenya, le général Robert Kibuchi, assisté par ses homologues de la RDC de l'Ouganda, de la Tanzanie, de Burundi et du Soudan du Sud. Seul le Rwanda n'y a pas pris part. Selon le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, celle-ci fait suite au deuxième conclave des chefs d'État-major sur la RDC qui s'est tenu en Nairobi au Kenya le 21 avril 2022. Après avoir évalué la situation sécuritaire actuelle dans l'est de la RDC, ces chefs des armées se sont convenus sur les modalités de déploiement urgent d'une force régionale en RDC. Le général Sylvain Ekenge.
Plusieurs recommandations prises seront consolidées aux prochaines assises des experts et des chefs des forces de défense qui auront lieu du 15 au 19 juin 2022 à Nairobi au Kenya avant la validation par les chefs des de la communauté.
Le chef d'état-major général de l'RDC, le général Célestin Mbala Moussensé, en plus de remercier ses homologues, leur a réitéré le vœu de voir la paix être restaurée dans l'est de l'RDC et dans la région de l'EAC. En général, Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Examen de la proposition du G7 portant modification de la loi électorale en seconde lecture. Comme à l'Assemblée nationale, les sénateurs du Front commun pour le Congo suspendent leur participation à toutes les activités liées à l'examen de ces textes. Dans une déclaration faite ce mardi au Palais du Peuple, après avoir décidé de quitter la salle de plénière, les sénateurs du FCC accusent l'Union sacrée d'effectuer un passage en force pour amener le pays à des élections non transparentes ni consensuelles. Malgré la suspension de la participation du FCC aux travaux sur cette loi, les sénateurs de l'Union sacrée parlent d'une accusation gratuite et décident d'envoyer sans débat général la loi en commission pour un examen approfondi. Michel Kifindangoy.
Dans leur déclaration, les sénateurs du FCC dénoncent le manque de volonté politique de l'Union sacrée d'offrir aux Congolais des élections démocratiques dans le délai constitutionnel en occasionnant des scénarios politiques susceptibles de replonger le pays dans une crise sans précédent. Sénatrice Hortense Mukalai.
L'Union sacrée a délibérément opté pour un passage en force au niveau de l'Assemblée nationale et qu'elle s'apprête à faire de même au niveau du Sénat. Sauf naïveté politique suicidaire, que l'intention de l'Union sacrée de la nation est tout sauf d'organiser les scrutins transparents et inclusifs.
Les sénateurs de l'Union sacrée parlent d'une accusation sans preuve de la part de leurs collègues du FCC, sénateur Mutombo.
À quel niveau il n'y a pas volonté d'organiser des élections transparentes, sans compter que les élections d'avant qui étaient organisées par le FCC, ça a été des élections transparentes sans conflit post-électoraux.
Au regard du délai imparti au Sénat d'examiner cette proposition de loi dans 6 jours avant la clôture de la session, les sénateurs de l'Union sacrée accordent 4 jours à la commission PAJ pour lever les options avant de présenter à la plénière leur rapport dimanche prochain à 15h.
Autre chose à présent, province du Maniema, plus d'1 million de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action seront distribués à près de 700 000 ménages. Ces statistiques ont été données par le ministre provincial en charge de la santé ce mardi 7 juin lors d'un point de presse organisé à Kindu. Docteur Junior Kibungi fait savoir que la campagne de distribution de ces moustiquaires est prévue ce mercredi 8 juin. Il invite la population à une bonne utilisation de ces moustiquaires. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Nous venons d'organiser un point de presse à l'intention des journalistes de la province du Maniema pour que ces derniers puissent nous aider à faire passer les messages à travers le média pour que la population puisse avoir d'abord l'information par rapport à la date de la campagne qui commence le 8 juin 2022 pour que la population puisse avoir l'information par rapport à l'intérêt et le bien fondé d'utilisation correcte de la moustiquaire. Et cette campagne concerne toute la population. En termes de ménages, il s'agit de 619 841 ménages que nous attendons donner les moustiquaires. Et en termes de moustiquaires disponibles, nous allons distribuer 1 934 932 moustiquaires dans l'ensemble de la province. Nous visons de cette distribution que la population puisse être protégée contre le paludisme, ce que nous appelons communément malaria, et que le nombre de décès ou de morts puisse diminuer et le nombre de malades, parce que cela a un intérêt sur le plan économique, sur le plan développement. Une population en bonne santé, c'est une population qui va produire et qui va se développer.
Dans la province du Kwilu, les habitants de la ville de Kikut éprouvent d'énormes difficultés en ce qui concerne la conservation de leurs cadavres dans la morgue. À la base, le manque d'électricité fait que garder un corps à l'unique morgue que possède cette ville puisse coûter le jeu de la tête. La population qui en a marre tire la sonnette d'alarme. Situation que reconnaît le maire de la ville, Léonard Moutangou, qui propose une piste de solution. Le point avec Irène Mboma.
Conserver un corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Kikwit n'est pas réservé à n'importe quelle catégorie de personnes. Cela coûte tellement cher que généralement, les cadavres sont directement enterrés sans passer par la morgue. C'est ce que déplorent certains habitants de cette ville qui attribuent cet état des choses au manque d'électricité dans la ville.
Quand vous placez un corps, ça nage vers 400 000 par jour. Bon nombre d'habitants de Kikwit ne peuvent pas oser déposer leur corps là. Ce sont ceux qui ont des frères en Europe, ça et là, qui ont la facilité d'aller déposer le corps là.
Pour mettre un corps dans la morgue de Kikwit, il faut payer 100 dollars. Mais à côté, vous devrez payer 5 litres de carburant par heure pour faire fonctionner la morgue le nombre de jours que votre notre corps prendra. C'est le grand souci.
Léonard Mutangu est le maire de la ville de Kikwit. Il confirme cette réalité et indique ce qui suit.
Nous, on essaye de contourner cette situation. Il y a de l'argent que la population avait cotisé. Quand on n'avait pas encore de morgue, on voulait acquérir une morgue. On veut utiliser cet argent pour acheter des groupes électrogènes qui consomment au moins.
Signalons que cette morgue de Kikwit a été dotée à la population par un des politiciens du coin. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
De manière unilatérale, la junte malienne a fixé la durée de la nouvelle transition à 24 mois à compter du 26 mars 2022, alors qu'elle dirige le pays depuis le coup d'état de 2020. La CEDEAO a réagi mardi soir dans un communiqué laconique. Sénégal, le Conseil constitutionnel a invalidé la liste nationale des titulaires de la coalition des opposants pour les législatives du 31 juillet. Après une erreur dans la confection de la liste, Ousmane Sonko, l'un des plus farouches opposants au président Macky Sall, se retrouve notamment écarté de la course. Inacceptable pour les responsables de la coalition qui appellent à une manifestation mercredi 8 juin à Dakar.
L'invité.
Revenons sur le vote de la loi électorale à l'Assemblée nationale. Le G13 auteur de cette proposition de loi n'est pas d'accord avec le travail réalisé par la commission politique, administrative et juridique. D'après le professeur Jacques Njoli, co-auteur sur les 18 innovations proposées par le G13, seuls 3,5 ont été valablement retenus. Les autres ont été soit dénaturés, soit rejetés. Ce qui pose un problème de transparence de la chaîne de transmission des résultats notamment. Jacques Njoli s'entretient avec Michel Kifindangoy.
Professeur Jacques Joly, bonjour.
Bonjour Monsieur Michel Kifinda.
L'Assemblée nationale a adopté le rapport de la commission PAJ sur l'examen de la loi électorale. Est-ce que vous êtes satisfait du travail qui a été abattu?
Merci beaucoup Monsieur Michel Kifinda. Pour vous dire si nous sommes satisfaits, les G13 n'ayant pas participé au débat sur les options présentées par la plénière et encore moins aux travaux de la commission, la commission ayant spécifié sa méthode qui consistait à traduire fidèlement en écriture juridique les options de la plénière, n'a pas eu la possibilité de débattre de la question. Nous ne pouvons que constater les options dégagées par la plénière et la commission qui, malheureusement, sont en profonde distance ou sont des options inachevées du groupe de 13. Donc, je ne peux que prendre acte, espérer que dans un autre contexte, au Sénat ou peut-être dans des discussions au plus haut niveau, nous pourrons faire avancer les choses.
Pensez-vous que cette loi électorale ainsi adoptée par l'Assemblée nationale pourrait garantir tant soit peu, si pas totalement, la transparence, la crédibilité et l'inclusivité du processus électoral?
Les options relatives à l'inclusivité, on peut se dire que le point sur les inéluctabilités a été pris en compte. On a donc pris la démarche du G13. Mais en ce qui concerne la transparence, nous voulions faire en sorte que toute la chaîne de résultats soit transparente et les résultats du bureau de vote, par bureau de vote, ne soient pas simplement affichés, mais ça soit publié, proclamé. Et la même chose au niveau du centre de vote. Et finalement, au niveau du centre national de centralisation de résultats, cette option n'a pas été prise. Il y a aussi des questions essentielles pour nous, telles que la problématique de la proportionnelle. Il y a aussi la question du régime légal exhaustif du vote électronique. Eh bien, il est important que cette procédure soit encadrée par la loi. On regrette aussi que la question du contentieux ne soit pas totalement vidée, notamment l'article 27, et la question de la précision sur les erreurs matérielles qui a pu sauver quelques-uns de nos collègues.
Cette loi devra être examinée au niveau du Sénat en deuxième lecture. Que recommandez-vous aux sénateurs de privilégier, en plus de ce qui est fait à l'Assemblée nationale, pour renforcer davantage la transparence, la crédibilité et l'inclusivité de ce processus?
En définitive, définitive, même s'il est vrai que le réforme de notre système électoral convoque beaucoup plus la prise en compte de la crise anthropologique, donc des hommes qui sont appelés à conduire le système électoral, ce qui exige donc un changement des mentalités, des perspectives, aussi bien au niveau du législateur, au niveau de l'organe de gestion, au niveau des agents, donc de tout le peuple congolais. Le souci de G13, c'était de mettre fin aux multiples irrégularités observées lors des trois premiers cycles, de résoudre la question de la faiblesse des compilations et de la traçabilité des résultats, de résoudre les déficits des transparences des opérations de vote, de mettre fin à la confusion sur le vote électronique, sur les dysfonctionnements de la commission électorale. Nous avons l'impression que soit nous avons refusé d'aller dans les fonds, on prend les cas de suppléance, de la décorruptibilisation de notre système électoral, nous n'avançons pas beaucoup. Donc nous espérons que au niveau du Sénat, ou au niveau sociétal, parce que la loi électorale est une loi sociétale, la société civile, le force social et politique vont peser de toutes leurs forces, de toutes leurs convictions, les églises, pour que nous ayons une loi électorale qui reflète réellement les attentes d'une population en quête des institutions plus légitimes et plus efficaces.
Professeur Jacques Joly, je vous remercie.
Fin de notre grande édition du Journal du Matin, coordonnée et supervisée par Alain Hirong Moshing, mise en onde par Polydor Basunga. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la radio Okapi.